De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com et de retour en direct toujours de l'hôtel de ville de Tours pour les 20 ans du festival S'entraider, et une journée qui, je le rappelle, est co-organisée avec le festival Plume d'Afrique. Et l'on reçoit justement deux intervenantes de ce festival, Christina Go, qui est vocaliste et essayiste, ainsi qu'Aminata Ouattara, qui est fondatrice de l'association Filles à l'école et solidarité en Côte d'Ivoire. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Merci d'être toutes les deux présentes au micro de Radio Campus Tours. Alors, vous allez participer, je crois, à un débat qui aura lieu entre 17h et 18h30, un débat sur le thème « Voix des femmes, quelle réalité africaine pour quel état du monde ?» Alors, pourquoi, quels vont être les enjeux un petit peu de ce débat ? Est-ce que vous savez un petit peu comment ça va se passer ?
Alors, bonjour, bonjour à tous. Alors, c'est une table ronde, en fait, qui est axée vraiment sur la réalité du terrain. Donc, voix de femmes, pourquoi ? Parce qu'on a une perspective de femmes. Il y a un intervenant homme, donc Toufik Belfadel, qui va intervenir depuis l'Algérie, mais qui a une perspective très particulière, puisqu'il défend la cause féministe. Donc, c'est vraiment une table ronde axée sur la réalité du terrain pour pouvoir donner un éclairage à ceux qui seraient intéressés par l'engagement en Afrique ou dans d'autres continents où la culture et les modes de vie sont bien différents de la France.
Alors, je crois que vous aviez déjà écrit un petit peu sur cette parole des femmes, notamment dans un ouvrage « Anthologie de paroles de femmes » de Martinique. Est-ce exact ?
Oui, alors c'était une œuvre collective qui avait été dirigée par la poétesse et écrivaine primée Nicole Cage, donc de Martinique, qui rassemblait donc plusieurs auteurs femmes autour de la perspective, encore une fois, féminine. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette lecture plurielle de plusieurs acteurs, et toujours pour la mise en valeur d'une réalité du terrain. C'est vraiment le gros focus sur le terrain. C'est vraiment important, hors de la théorie, etc.
D'ailleurs, en parlant de terrain, vous actez aussi auprès des jeunes au niveau de la poésie. Comment vous arrivez à les sensibiliser à cette poésie, et elle tourne autour de quoi finalement la vôtre ?
Alors, c'est plusieurs, là encore, actions de terrain au niveau d'ateliers, d'écriture poétique ou d'expressivité poétique, puisque avec la langue française, on a ce souci de prononciation notamment et tout cela, parce que les jeunes sont très attirés par l'anglais, justement parce que l'anglais, la prononciation est affirmée, etc. En français, on perd un peu tout ça. Donc c'est des actions que je mène ou dans les écoles, ou dans les associations, ou dans les groupes. Intéresser les jeunes, c'est d'abord par l'axe de l'écriture, mais écrire leurs sentiments, ce qu'ils ressentent, etc. Montrer que la poésie, c'est d'abord le quotidien. Quand on utilise une phrase comme « le soleil s'est couché », c'est une personnalisation. Donc c'est vraiment les ramener à la vie de tous les jours et réaliser qu'on est poète sans le savoir. C'est juste une prise de conscience.
Et est-ce que cette oralité dont on parlait, qui est certes un peu, la prosodie est peut-être plus plate en France, mais est-ce que ça aide les élèves à se connecter plus facilement que la partie écrite de la poésie, des fois qui peut être vue comme arriérée pour les jeunes, dirons-nous ?
Non, quand je suis en contact avec les jeunes, l'écriture est beaucoup plus facile pour eux. Parce que du coup, ils sont seuls avec leur papier. On met l'axe sur le fait que le papier est le meilleur ami. Parce que quand le sentiment est trop fort ou trop douloureux, quand il y a des situations extrêmes en famille qu'on ne peut dire à personne, à ce moment-là, le papier devient le meilleur ami. Donc on passe d'abord par le papier, et ensuite on a besoin d'exprimer, de mieux ressortir par la voix, par la gestuelle, le sentiment qui a été décrit. Donc c'est le processus que je suis avec eux. Donc c'est vraiment au cas par cas, sentiment par sentiment, et donc c'est ça mon terrain.
Donc finalement, il y a aussi un but d'aider les élèves psychologiquement ?
Complètement, parce que la poésie, c'est la réalité du quotidien. La réalité du quotidien, c'est la joie, mais c'est aussi la douleur, la peur, la honte. Et quand on doit passer un oral d'examen et que ça ne va pas à la maison et qu'on n'arrive pas à se concentrer, la poésie aide, l'expressivité poétique aide. Voilà, c'est ça le quotidien.
Vous avez également voulu sensibiliser les gens au suicide, si je ne me trompe. au niveau d'Internet, oui, avec UT Fortis.
Oui, c'est lié parce que du coup, utiliser l'art et la poésie, la parole, pour le mieux-être, donc dans un cadre de prévention donc du suicide pour les cas les plus graves. Donc les ateliers auprès des jeunes partent depuis des petites classes jusqu'aux étudiants. Tout cela est axé pour le mieux-être. Et pour revenir à la table ronde de tout à l'heure, c'est aussi un cadre de mieux-être. Quand un jeune en France ou de Touraine a le besoin de s'engager ou d'aller aider, il faut qu'il sache auparavant sur quoi il va tomber. Loin du fantasme, loin du volontourisme, voilà, qu'il sache exactement où il va mettre les pieds. C'est pour ça que c'est important d'avoir des intervenants comme Mme Ouattara, qui, eux, connaissent, pratiquent le terrain et qui sont loin du fantasme ou du rêve.
Alors justement, en parlant d'éducation et en parlant de terrain, donc effectivement, Aminata Ouattara, vous êtes fondatrice de l'association Filles à l'école et Solidarité, une association donc, qui soutient la scolarisation et l'alphabétisation pardon, des filles et des femmes dans les pays les plus démunis. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu quelles sont les actions peut-être menées par cette association pardon.
Alors, bonjour et merci de nous donner de la voix pour pouvoir mettre en voie nos actions du quotidien. Alors, l'association Filles à l'école et Solidarité est née d'un constat. J'interviens plutôt dans les zones rurales. Pourquoi les zones rurales ? Parce que ce sont des zones qui sont un peu éloignées des villes, des capitales, des pays dans lesquels j'interviens, notamment la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et dans ces zones rurales, nous sommes partis d'un constat. On a remarqué que dans certaines familles, quand il s'agissait de scolariser les enfants, c'était plutôt les petits garçons qui étaient scolarisés et les petites filles étaient reléguées au second plan, notamment dans les tâches domestiques. Et donc, pour essayer d'équilibrer tout ça et pour essayer de tout ça dans cette perspective de genre, j'ai mis en place cette association-là, justement.
Est-ce que l'éducation, les mouvements d'émancipation peut-être des jeunes filles passent aussi par l'éducation ? C'est un point central pour vous, ça ?
Tout à fait. Nelson Mandela l'a dit, l'éducation est l'âme la plus fatale. Et donc, c'est par l'éducation que ces petites filles peuvent s'ouvrir au monde. C'est par l'éducation que ces petites filles qui habitent dans ces zones très reculées où il n'y a pas de digitalisation, où il n'y a rien... C'est à travers l'éducation que ces petites filles peuvent aussi, on est aujourd'hui dans un monde très connecté, et pour que tout le monde ait la même information au même moment, il faudrait passer par des canaux. Et je pense que passer par l'éducation pour ces petites filles a été le moyen le plus adapté à la situation.
Et comment se concrétisent ces actions pour que ces petites filles puissent apprendre, tout simplement ?
J'ai pas compris.
Comment ces actions se concrétisent pour les... Est-ce qu'il y a une structure que vous mettez en place ?
Oui, j'ai une structure qui est mise en place ici, et dont un retentissement en Côte d'Ivoire, à travers des actions bien précises, notamment, comme je disais, la scolarisation de ces petites filles-là. Elles sont scolarisées à travers le parrainage, et à travers des ventes qu'on fait ou à travers des conférences comme celle que des colloques ou des conférences comme celle qui va se faire tout à l'heure, dans le but de sensibiliser les autres personnes aux questions d'éducation de ces filles dans des zones aussi reculées.
Je tiens à préciser qu'au niveau de l'association de Mme Ouattara, il faut savoir que Mme Ouattara elle-même vient de ces zones, elle provient de ces zones, elle a grandi là-bas, donc elle a dit non au mariage forcé. Donc c'est tout un cheminement, c'est la scolarisation qui a permis à Mme Ouattara elle-même d'être aujourd'hui parmi nous. Donc c'est un peu quelque chose qu'elle pose, un véritable engagement. Mais il faut savoir que sur le terrain, c'est beaucoup de négociations avec les autorités, etc. Et c'est aussi l'achat de tout ce qu'il faut pour que la petite fille aille à l'école. Parce que ce n'est pas juste en disant aux parents, vous devez les envoyer. Les parents n'ont pas les moyens d'envoyer la plupart du temps. La plupart du temps, la maman a besoin de l'aîné pour pouvoir diriger les petits frères et sœurs, etc. Donc c'est pourvoir financièrement, aider les femmes à se réunir en coopérative, financer les fournitures, négocier avec les chefs, les imams, pour qu'on donne l'autorisation légale, entre guillemets, avoir l'apport du préfet, etc. Donc c'est toute une démarche à laquelle se livre la FAES et qu'on va développer justement au cours de la table ronde.
Tout à fait.
Et du coup, les principales difficultés, c'est finalement à la fois cette précarité et peut-être une forme de réticence, comme vous l'avez dit, de certaines instances.
On ne va pas parler de réticence, mais on va plutôt parler du poids sociétal. Parce que nous sommes dans des zones où, à dominante musulmane, et donc il y a un poids sur la société qui... La société qui pense que le contact avec l'extérieur peut amener les filles à ne plus respecter les valeurs qui ont été mises en place.
Exactement.
Justement par cette religion et par la coutume qui est habituelle. Et donc cette association a été mise en place en me prenant moi-même comme exemple, parce qu'il fallait partir de pair. Et je me prenais comme exemple en disant aux parents que... Comme elle disait, dans les négociations justement, parce qu'au départ on l'a fait de façon frontale, rendu compte que ce n'était pas du tout possible de faire de cette manière-là. C'est pour cela qu'il faut déconstruire aussi à un moment donné tous les fantasmes qu'on peut avoir, parce que nous, on a eu la chance de venir ici, de voir d'autres cultures, de se confronter à d'autres réalités et de repartir là-bas leur dire « cette façon de faire n'est pas la bonne ». Non, ça ne se passe pas comme ça et ils ne l'entendent pas de cette oreille-là. Donc il faut passer par beaucoup de négociations en leur disant que la petite peut certes aller à l'école tout en respectant les valeurs, tout en respectant la coutume et tout en respectant et que le contact avec l'extérieur ne viendra pas en quelque sorte dénaturer cette petite fille-là ou ne vient
voilà,
pas...
Voilà, ce n'est pas une vision en fait de précarité parce que c'est un quotidien qu'il faut respecter. C'est juste proposer un équilibre. Proposer un équilibre, la scolarisation peut se faire, permettre à la petite fille de décider quand elle veut se marier, par exemple, sachant qu'elle ne reniera pas ses engagements vis-à-vis de la tradition. C'est juste, dans cette tradition, ce qui est profondément nocif, le voir autrement, trouver d'autres solutions, dans le cas, par exemple, de l'excision ou du mariage forcé. Mais il n'y a pas de remise en question générale d'une socialisation qui a des côtés pertinents.
Tout à fait.
Voilà.
C'est pour ça peut-être que vous y retrouvez dans S'entraider, car comme il nous expliquait, il y a cet échange qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une domination de l'idéologie occidentale,
dirons-nous,
c'est la prise en compte des deux.
Exactement, loin d'une vision ethnocentrée en fait.
Exact.
Voilà.
Et c'est pour ça que vous êtes dirigé vers S'entraider, qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre?
Alors c'est plutôt S'entraider hein, qui m'a contacté.
D'accord, ok.
qui m'a contacté et j'étais
oui.
Ravie de pouvoir être un pont entre ces acteurs du terrain, donc Madame Aminata Ouattara, Monsieur Toufik Belfadel, Valérie Oka et Vénissa Guinot, qui elle intervient, maîtrise vraiment les territoires de l'Afrique du Sud, du Congo notamment, Toufik Belfadel pour le Maghreb, Valérie Oka pour les relations avec certaines institutions internationales. Voilà, ce sont vraiment des personnes qui sont sur le terrain, constamment sur le terrain, et c'était important pour moi de faire ce pont.
Okay.
Eh bien, écoutez, Mélissa.
Alors moi, j'ai une question pour Madame Ouattara. J'aimerais savoir quel rôle jouent les femmes plus âgées, en fait, peut-être les grands-mères, parce qu'on imagine bien que vous rencontrez les mères, mais du coup, les femmes plus âgées, est-ce qu'elles vous soutiennent? Est-ce qu'elles vous encouragent? Comment elles se positionnent?
Alors, dans ces zones-là, les femmes plus âgées sont, contrairement à ce qu'on pense, sont celles qui transmettent la génération. Ça saute d'un pont. C'est pas la maman qui s'occupe de l'éducation de sa fille, c'est la grand-mère qui s'occupe de l'éducation de la petite fille, ainsi de suite. Et donc, même dans les décisions, c'est la place de la grand-mère est plus importante que celle de la maman. Et donc, ces femmes-là, oui, aujourd'hui, elles m'aident. Et que je ne suis pas... On n'est pas seulement sur le cadre strict de la scolarisation. Au-delà de la scolarisation, il y a d'autres éléments qui viennent s'agréger à cette scolarisation, notamment le fait de créer des jardins botaniques, par exemple, pour les mamans. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui s'imbriquent, plusieurs raisons qui s'imbriquent dans ces sujets-là. Que la petite fille, elle doit aider la maman, par exemple, au champ. Et donc, quand on récupère cette main-d'œuvre pour la maman, il va falloir remplacer par autre chose. Il va falloir trouver d'autres possibilités pour ne pas qu'au moment des saisons de culture, cette maman aille récupérer la petite dans la classe. Donc, c'est plusieurs, comme on disait, on est toujours dans la négociation, dans cet esprit de négocier à tout moment, à tous les étages, pour que la petite puisse sereinement aller à l'école. Et ça demande beaucoup d'énergie et d'effort sur le terrain.
J'avais peut-être une dernière question, parce que en tout cas, on parle beaucoup en ce moment des mouvements féministes, de mouvements d'émancipation, et ça me fait penser à une sociologue qui avait travaillé sur ces mouvements Fatousso en Afrique. Est-ce qu'il y a un enjeu en ce moment? Est-ce qu'il y a des mouvements d'émancipation féministes qui traversent l'Afrique en ce moment?
Il y en a, hein. En Côte d'Ivoire notamment, on a pu collaborer, enfin à mon niveau, avec plusieurs associations féministes. Mais les perspectives sont légèrement différentes hein, des associations occidentales. Par exemple, le combat prioritaire est celui de l'autonomisation. L'autonomisation des femmes pour qu'elles aient leur commerce, pour qu'elles aient leur propre revenu, source de revenu. C'est vraiment le combat prioritaire. Et puis évidemment, on retrouve évidemment ce qui nous rassemble tous, le combat contre les violences,
violences.
Faites aux femmes. Mais la priorité de la plupart des associations féministes, c'est vraiment l'autonomisation des femmes qui est capitale.
Alors ça peut passer par exemple par des coopératives agricoles puisqu'il y a toute
Exactement,
une connaissance.
Tout à fait.
Exactement.
Et les femmes, les mamans des petites filles par exemple que je scolarise, c'est ce que je disais, au-delà de la scolarisation des enfants, on arrive aussi à monter des coopératives de ces mamans-là, des coopératives agricoles parce qu'on est dans des zones où c'est l'agriculture familiale qui fait foi d'activité.
Et c'est des coopératives de quoi, par exemple?
Par exemple, j'ai un exemple bien palpable, concret. Il y a des femmes qui cassent des petits cailloux. Je vais le dire de façon caricaturale, hein, mais c'est ça. Qui cassent des petits cailloux et que ces cailloux-là servent à construire des maisons. Et donc, il y a une coopérative qui a été mise en place par rapport à ces femmes-là pour utiliser le caillou comme moyen d'activité génératrice de revenus.
Ah non, mon micro, c'est bon. Mon micro était coupé. Bien, je vais vous remercier d'être passé sur le micro de Radio Campus Tour. Et puis, je vais vous souhaiter donc un bon débat.
Juste un petit message pour tous ceux qui nous écoutent. C'est très bien de vouloir s'engager, mais il y a vraiment ce travail préparatoire qu'il faut faire, de comprendre les codes du pays hôte, de comprendre ces codes et de respecter les structures en place. Et les autorités en place, parce qu'il y en a. Si vous pouvez vous renseigner sur Internet au niveau des ambassades, etc., savoir que ce n'est pas des no man's land où on peut aller aider n'importe qui, n'importe comment. Il y a des structures en place, il y a des associations, il y a des protocoles très importants qu'il faut comprendre pour ne pas juste aller faire une espèce de tourisme.
Ne pas avoir une vision trop européo-centrée, trop occidentale.
Exactement, pour ne pas avoir de choc culturel non plus. Parce que le choc culturel se fait dans les deux sens. Merci
beaucoup. Petite pause musicale. Alors c'est DIFAF qui, depuis tout à l'heure, gère la technique et tout se passe très bien. Donc voilà, c'est parfait. Une petite pause. Thank you.